chronique de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie et cette chronique littéraire de Jean Mauduit, qui, lui, a choisi de ne traiter que des ouvrages rédigés par des écrivains femmes. Vous remarquerez que je ne dis pas le mot « auteur », parce que « auteur » n'est pas dans le dictionnaire de l'Académie française. Bonjour Jean Mauduit.
Bonjour Hélène, ravie de vous revoir, après un bout de temps quand même.
Oui, c'est vrai. Quel menu avez-vous concocté pour aujourd'hui?
Oh, alors là, du nanan, de l'ambroisie.
Ah.
Le dernier livre, tout simplement, publié par la grande Doris Lessing, prix Nobel de littérature, qui nous a quittés récemment. Son titre, Alfred et Émilie, décidément les titres à base de prénoms font fureur, paru chez Flammarion et mis en vente au prix de 20 euros.
C'est un roman ?
Eh bien oui et non. C'est assez composite. 285 pages que compte le volume, dont 145 effectivement consacrés à un récit romanesque, très très british. On est dans l'Angleterre des premières années du XXe siècle et il y a toute une compagnie de jeunes gens, de jeunes filles, de bonnes familles qui vit sa vie plus ou moins traversée d'éclairs sentimentaux sous le regard bienveillant de Mrs. Mary Lane, une femme d'influence et de bienfaisance qui est un peu la maman de tout le monde. Alors, ça se passe, le contexte, c'est la vie paisible d'un village du nom de Langerfield, non loin de Londres. Alors, vous y trouvez tout ce que vous attendez à trouver. Thé à 5 heures, réception, bal entre amis, petit flirt et naturellement le cricket. Un petit monde de jeunes gens et de jeunes filles pour qui le mariage demeure l'ambition numéro un et que survolent deux personnalités. Émilie, qui a choisi le dur métier d'infirmière alors que tous les boulevards sociaux lui étaient ouverts et dont nous suivrons la remarquable carrière jusqu'à son mariage avec un brillant médecin, son veuvage prématuré, la dépression où elle sombre. Mais aussi l'extraordinaire activité dont elle a fait preuve en créant un peu partout des bibliothèques pour enfants qui sont de véritables centres d'apprentissage de la lecture et de la culture.
Alors un personnage, Émilie, et le second personnage ?
Alors un personnage fort et le second à peine moins fort, c'est Alfred, champion de cricket, un homme dont la beauté fascine les jeunes filles et les dames à la ronde, mais qui consacre tous ses soins à veiller comme un frère sur un certain Bert, le fils à moitié détraqué, ivrogne, violent, des fermiers chez qui il travaille. Et contrairement à l'attente du lecteur, Alfred n'épousera pas Émilie.
Ah, alors qui épousera Émilie ?
Fin du roman.
Fin du roman, ça c'est la partie romanesque.
Voilà. Alors, vous demandez pourquoi ? Tout simplement parce qu'Alfred et Émilie sont les clones romanesques, des vrais parents, des parents de Doris Lessing. Et parce que dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la deuxième partie, qui devient une autobiographie, les choses se passent tout autrement. Alfred s'est bel et bien marié avec Émilie, mais la Première Guerre mondiale arrive, il en revient avec une jambe en moins, il est soigné dans l'hôpital même, le Royal Free Hospital, où travaille Émilie, qu'il assiste après son amputation. On l'équipe d'un appareillage très sommaire, comme on faisait à l'époque, avec lequel il vivra tout le reste de sa vie en endurant 1000 souffrances, au point de supplier vers la fin. Vous abrégez bien l'existence d'un vieux chien, pourquoi ne pas faire pareil avec moi ? Quant à Émilie, elle connaît quelques années heureuses avec son mari, avec les deux enfants qu'il lui a donnés, en Iran, la Perse, à l'époque.
Où est née Doris Lessing ?
Où est née Doris Lessing ? Elle enterre ensuite son extraordinaire carrière d'infirmière pour rejoindre Alfred à Salisbury, capitale du Zimbabwe, dans ce qu'on appelle à l'époque la Rhodésie du Sud, un territoire du Commonwealth à l'époque. Alors là, tout s'emballe et on tombe dans une espèce de vérité cruelle et pathétique. Et c'est la vraie vie, là, de Doris Lessing. Émilie aide son mari invalide à choisir une ferme dans une région sauvage. Ils font bâtir sur une éminence de terre une maison absurde, une maison de coloniaux un peu fous, qu'elle meuble en teignant des sacs de farine pour en faire des rideaux, en fabriquant des tables et des armoires avec des caisses de paraffine. Après quoi, elle se met à sombrer dans une dépression atroce, faite des regrets de son ancienne profession et des souffrances épouvantables dont elle a été témoin. Une dépression faite aussi de sa solitude. On est loin de tout, de ses rêves brisés, de la vie amoindrie qu'elle mène, du climat très dur et de l'échec de leur ferme. Quand Alfred et elle se rendent compte de leur fiasco, ils n'ont plus assez d'argent pour retourner en Angleterre. Et voilà prisonniers à vie et à mort, de ce pays sauvage, prisonniers aussi de la maladie, le diabète, qui a frappé Alfred. Et c'est dans ce contexte difficile que grandit Doris, avec pour fond de décor une sorte de haine qui se développe entre sa mère et elle. Bien sûr, elle s'adore, mais elle s'adore et se déteste. Doris fait des fugues. La première, elle a 6 ans. Elle veut par-dessus tout échapper à l'autorité baroque de sa mère. Elle le lui dit avec violence. Elle s'engage avec elle dans une interminable querelle. C'est à la fois un épisode de la longue lutte des femmes pour leur libération, et d'abord la libération par rapport aux parents, et une grande histoire d'amour qui tourne mal, parce qu'au fond de tout ça, il y a un amour pathétique, bien sûr, entre Doris et sa maman. Elle est partie en pension dans un collège catholique, Doris, et là, bien sûr, elle regrette sa maison, mais elle continue d'en vouloir à sa mère. Bon, naturellement, je simplifie.
Et rien n'est simple.
Ce n'est pas si simple.
Mais est-ce que tout cela donne une bonne littérature, à votre avis, Jean Mauduit ?
Excellente, en tout cas, dans cette partie biographique. La première, je dirais qu'elle est un peu, sinon convenue, du moins attendue. Un roman à l'anglaise, parmi d'autres, plutôt meilleur que d'autres. Mais bon, autant la tranche biographique est forte. Ce pays de tous les dangers, où la petite Doris nourrit une peur panique des animaux qui hantent la brousse, les léopards, les serpents, les insectes venimeux. Cette solitude, loin de tout, ce huis clos domestique entre un père infirme et une mère foudroyée, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Oui, vraiment, tout cela est magnifique. Et on y trouve la clé du talent de Doris Lessing, qui, tellement jeune, a vu tellement de choses, qui a connu les aspects les plus noirs de la vie, qui a pris conscience du malheur des hommes, et très jeune, et de l'injustice dont sont accablés les hommes en fonction de leur couleur de peau, parce que c'est quand même dans ce milieu-là qu'elle était élevée. Comment s'étonner si la Seconde Guerre mondiale, dans sa vraie vie à elle, dans sa vie d'ensuite, va l'amener à adhérer à un petit groupe marxiste qui œuvre pour la fin de l'apartheid. Elle commence à publier en 1951, à 32 ans, et son premier ouvrage est un recueil de nouvelles inspirées de son expérience africaine. C'est dire si tout cela l'a marqué, et l'intérêt prodigieux de ce dernier témoignage qu'est Alfred et Émilie, un de ses messages d'avant la mort, où l'essentiel remonte à la surface.
Alfred et Émilie de Doris Lessing est donc paru chez Flammarion. Doris Lessing qui, comme vous l'avez dit, Jean Mauduit, avait obtenu le prix Nobel en 2007 et qui est l'une des grands écrivains britanniques contemporains. Et donc ce livre, si je comprends bien, est une sorte de testament à la fois romanesque et biographique qu'on lira avec grande émotion.
Merveilleux.
Merci Jean Mauduit. À bientôt pour une autre émission.
À bientôt, j'espère.